give myself away. I give myself away. So
béni Seigneur, que sera ta gloire à notre bien, à notre croissance, à notre maturité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Bonjour à tout le monde. Alors, je vous propose trois textes des Écritures. Le premier texte, c'est Genèse au chapitre 37. Notre lecture va d'abord du verset 3 au verset 4e, puis du verset 18 au verset 20. Et puis enfin, nous lirons la fourchette allant du verset 23 au verset 28. Et puis je donnerai les deux autres passages. Genèse chapitre 37. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Versets 18 à 20. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Soulignez bien les termes, mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les. Et jetons-les dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Versets 23 à 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Le second passage, il est dans 2 Samuel. C'est presque une relecture, nous l'avons lu la semaine passée. 2 Samuel chapitre 11, 14 à 18. Et puis 22 à 27. Le lendemain matin, de Samuel 11, partant du verset 14e au verset 18. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab en assiégeant la ville plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans les combats. Verset 22. Le messager partit à son arrivée et fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire. Ce qu'il appelle affaire, c'est homicide volontaire. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Il veut parler comme si c'était un hasard et pourtant c'est prémédité. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la et dit, et toi encourage-les. Dis-lui de ne pas s'en faire de ce qui est arrivé. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillir dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Nous terminons avec premier livre des rois au chapitre 21. Et notre lecture va du verset 7 au verset 16e. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Prenez... publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qu'ils déposeront contre lui. Tu as maudit Dieu et les rois. Puis mène-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'il leur avait fait envoyer. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes le déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, chose qu'il n'avait pas eu à faire. Puis ils les menèrent hors de la ville et les lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Acab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jézréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Presque comme si c'était un cancré là, un chien. Acab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jézréel, afin d'apprendre possession. Ce dimanche matin et peut-être quelques autres, je verrai comment Dieu va nous conduire. Je parlerai sur le thème la méchanceté, une chose qui ne convient pas aux saints. La méchanceté, une chose qui ne convient pas aux saints. Ce dont nous allons parler durant ces quelques dimanches est un mal majeur. Le vrai visage de la déchéance de l'homme depuis la chute. Ce mal, on le retrouve dans le monde en général, mais dans ce monde des compétitions où chacun tient coûte que coûte à réussir et à avoir quelque chose. Et s'il faut utiliser ces moyens pour avoir, on est prêt à le faire. Ce mal, on le retrouve dans les affaires, prêt à tout, à se mettre des crocs en jambes, pourvu que l'autre rate et que je puisse avoir. Ce mal, on le retrouve dans les relations interpersonnelles. C'est mal, on le retrouve en politique. On s'en sert pour éliminer l'autre de toutes sortes de manières. C'est mal, on le retrouve en famille. C'est mal, on le retrouve malheureusement dans les couples aussi. C'est mal, on le retrouve aussi bizarrement, même à l'église. Et pire encore, même dans les sacerdoces, dans les ministères. La méchanceté. Comme une gangrène qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait arrêter, ce mal a déjà eu à faire des ravages. Et si Christ tarde à venir, ce mal fera encore et encore et encore des ravages, élargissant son palmarès macabre. Et en ce jour, nous allons simplement poser les fondements, partant de ces trois textes, ces trois récits. Nous allons d'abord essayer de voir c'est quoi la méchanceté, simplement essayer de la définir. Et puis nous verrons quelques principes, Dieu voulant, 10 principes attachés à la méchanceté. Et si le temps nous le permet à la fin, nous allons conclure en posant la question, peut-il être vaincu ce mal? Les trois textes que nous avons lus illustrent cela. Des frères qui ont le même sang, la même parenté, la même filiation, n'aiment plus leurs frères, n'arrivent plus à les supporter. Et ils décident de les tuer. Ils utilisent le terme « venons et tuons-les, ôtons la vie, qu'ils cessent de vivre ». J'ai grandi dans une famille de 5 enfants, on a eu un petit problème de temps en temps, mais j'ai difficile à m'imaginer désirer que Rémi meure. Docteur Christophe doit mourir. Dieu donné, Dido, Yadies. Il doit mourir. Et plus tard, bon, sont-ils devenus moins méchants? Ils ont toujours la même maladie, mais comme la malaria chez nous, peut-être le nombre de croix ont diminué. Ils les vendent. Et ils rentrent à la maison comme si de rien n'était. Où est Joseph, papa? Là, tout le monde inquiète. Calmement, tranquillement, continuant à vivre comme si de rien n'était. Méchanceté. S'il y avait un jeu de Jeux Olympiques de méchanceté, ils auraient eu la médaille d'or. Le deuxième texte illustre cela aussi. Un homme a fauté, il a mal agi. Il a triché avec la femme de quelqu'un. Il essaie au départ de camoufler son erreur, mais Dieu bloque tout. Et je suis étonné, cet homme que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu, il décide en un instant, les témoins gênants doivent disparaître. Non seulement il écrit la lettre avec un contenu, pauvre Uri, il amène le courrier de sa condamnation. Il est le facteur de sa mort. Dans la lettre, il est écrit « Placez-les ». Et quand il arrive, il dit au général Joab « Vis éternellement ». Ça, c'est un courrier important que le roi a envoyé à vos ordres. Pauvre Uri. Et Uri meurt. Les rapports sont ramenés à David. Il est en train de renvoyer un message parce qu'il réalise que Joab doit être troublé. Allez dire à Joab de ne pas se troubler sur les champs de bataille. Ça peut toucher l'un, ça peut l'autre. Et il ajoute, encourage-les. Le troisième texte nous parle de l'une des femmes les plus impies de la parole de Dieu, Jézabel. Son mari est un homme assez correct qui veut avoir une vigne par la bonne méthode, la bonne procédure. Tout roi qu'il était, il aurait pu utiliser son impérium. Et Naboth refuse et lui se rétracte. Il veut respecter le bien d'autrui. Mais Jézabel dit non. L'abbé dit, elle écrivit des fausses lettres au nom de son mari. Donnant des injonctions au nom de son mari. Quel genre de femme vous êtes à côté de votre mari? Qu'il est triste dans un couple et que l'on dise, papa Zalrabien, mais maman Wana. Cherchez des faux témoins et ces faux témoins aussi. Venez dire qu'il a maudit Dieu. Et on le lapide. Il n'est pas évanoui. Il meurt. Travail accompli. Elle retourne vers son mari. Il dit, allez, va posséder la vigne. Qu'est-ce donc la méchanceté? Je prendrai deux directions pour définir la méchanceté. La première direction, c'est selon les dictionnaires français, j'ai trouvé dans le dictionnaire Larousse. Deux définitions que j'ai trouvées de la méchanceté. La première définition, la méchanceté, c'est le caractère d'une personne portée au mal. Portée au mal. Et la pensée qui est cachée, qui aime faire le mal. Qui se retrouve dans son élément, qui se sent bien. Quand il fait le mal. La deuxième définition que j'ai trouvée dans la méchanceté, c'est inclinaison consciente ou inconsciente qui pousse un homme et une femme à vouloir nuire à l'autre. Inclinaison consciente ou inconsciente qui pousse à vouloir nuire à l'autre. Et cette nuisance peut être physique, tout comme ça peut être morale. Qu'il y a des gens quelquefois qui se vantent, ma bien à vous salayer, à aucun instant vos vignons. La douleur que je vais provoquer en lui, en elle, il s'en souviendra, elle s'en souviendra longtemps. Et puis on vient à l'église, on lève les mains. Mais la Bible aussi nous donne des définitions de la méchanceté. J'ai trouvé deux mots en hébreu. Et puis un troisième mot en grec utilisé principalement dans le Nouveau Testament pour parler de la méchanceté. Mais tous ces trois mots pris ensemble nous amènent ces quelques définitions. La première définition, c'est penchant à faire du mal. Et là, la pensée qui est cachée, surtout en hébreu, c'est que c'est une force intérieure non contrôlée qui pousse à poser des actes extérieurs. Penchant à faire du mal. mais ça part, comme nous le verrons, de l'intérieur, d'une force qui nous contrôle, qui nous domine. Force invisible, mais les actions sont visibles à l'extérieur. Deuxième définition que j'ai trouvée, basée toujours sur l'hébreu, c'est aptitude à faire du mal en action ou en parole, mais qui commence par des intentions. Aptitude à faire du mal en action ou en parole, mais qui commence par des intentions. Troisième définition que j'ai trouvée toujours attachée à l'hébreu, c'est le caractère de quelqu'un qui cause et aime causer du tort. Et la pensée qui est cachée là dans la définition en hébreu, c'est que la personne vit de ça. C'est son moteur. Il ne peut faire et il ne peut être que ça. Ça me rappelle un récit que ma mère avait l'habitude de nous relater le plus souvent. J'ai grandi auprès d'une mère qui avait les dons des paraboles, des récits, et ça nous aidait quelquefois à saisir certaines vérités. Il nous expliquait les méchants en tant qu'hommes, mais aussi les méchants comme diable. Il nous disait un homme plutôt un poisson, était un jour en train de vouloir voguer dans une rivière. Et puis en voguant, il a vu de l'autre côté des rivages un scorpion en pleurs. Le poisson, compatissant, s'avance et demande au scorpion, « Pourquoi tu pleures? Il y a déjà un problème. J'ai rendez-vous de l'autre côté. » Mais j'ai un problème, je ne sais pas nager. Mais dis-toi, tu as mauvaise réputation. Tu le croques, là, tu t'en sers. Et ce scorpion était quino, il a dit, je ne veux pas te... En plus, tu veux me rendre service. Tu me jures, il dit, je te jure. Les poissons ont dit, monte. Beau milieu de la rivière, alors que tout était calme, les poissons entendent encore les scorpions en train de pleurer. Mais tu pleurais de l'autre côté quand tu manquais de l'aide. Et au beau milieu de la rivière, tu te mets encore à pleurer. Il dit, si je te dis ce que je ressens, tu ne vas pas me croire. Il dit, tu ressens quoi? Il dit, si je te le dis, tu ne vas pas me croire. Il dit, quoi? Il dit, j'ai envie de te piquer. Mais tu avais promis, c'est ça que je ressens, prie pour moi. Et juste le temps qu'ils arrivent de l'autre côté, tac, il a piqué. Pourquoi? C'est sa nature. C'est ce qu'il est. C'est ce que sont les méchants. Ils ne font pas un effort. Des fois, toi, tu es étonné, tu te dis, mais lui aussi, il s'étonne. Il est intrinsèquement mauvais. Caractère de quelqu'un qui cause et aime causer du tort. La quatrième définition, celle-ci, elle est basée sur les Grecs. C'est pouvoir de l'esprit du mal ou disposition d'esprit à faire le mal, mais par des voies insidieuses. Pouvoir de l'esprit du mal ou disposition d'esprit à faire le mal, par des voies insidieuses. Et la cinquième définition, basée aussi sur les Grecs, c'est habileté à faire le mal. C'est-à-dire faire le mal en y associant la ruse, la fourberie et la raffinerie. La finesse, j'allais dire. Il y a des gens qui sont fins, mais dans la méchanceté. Raffinés. Plein d'affinement. Et ces textes que nous avons lus nous servent de base pour poser juste quelques principes attachés à la méchanceté. Le tout premier principe, c'est que la méchanceté est la conséquence de la chute de l'homme. Et je dirais même plus, c'est le premier symptôme après la chute de l'homme. dès la chute de l'homme, dès l'instant où l'homme a été chassé du jardin d'Éden, selon que Genèse 3, 24 à 25 le montre, éloigné de la présence de Dieu. L'une des premières maladies qui s'est révélée, c'était la méchanceté. Genèse chapitre 4, au verset 8, le montre. Là, il dit, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh, Dieu avait parlé des morts en disant à Adam et Ève, les jours où vous mangerez ces fruits, vous mourrez. La mort, c'est un mot, cessation de tout principe de vie. La mort, ça veut dire quoi? Jusqu'au jour où, à cause de la méchanceté, Adam et Ève cherchent leur fils. Ils demandent à Abel, ils disent, suis-je le gardien de mon frère? Et ils vont retrouver, plutôt à Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Et puis ils vont retrouver Abel sans vie. J'imagine les cerveaux fracassés à cause de la méchanceté. Méchanceté simplement parce que les deux ont offert. Dieu a agréé l'offrande de l'un, il n'a pas agréé l'offrande de l'autre. Il avait dit, Caïn fut irrité. Et son visage ne fut plus le même. Il invite son frère, comme nous le verrons tout à l'heure. Et lorsqu'ils font ce déplacement, il y a l'un qui est sincère, mais naïf. Vrai, mais naïf. Et l'autre est fourbe. Il sait ce qu'il va faire. Méchanceté. Et Genèse chapitre 6, au verset 6, 5 et 6, monte d'un cran. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Sens unique. Si c'est en code de la route, sens unique. La méchanceté des hommes était grande. L'inclinaison à faire le mal. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Et l'abbé dit, Dieu s'est repenti, il regretta d'avoir créé l'homme. Français courant dit, les penchants de leur cœur se portaient de façon constante et radicale vers le mal. La colombe dit, chaque jour leur cœur ne concevait que de mauvaises pensées. La version parole de vie va plus loin, ne pensait qu'à faire le mal. Deuxième principe, l'homme sans Dieu est naturellement, automatiquement et intrinsèquement livré à la méchanceté. Celui qui n'a pas Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas d'effort à faire pour exprimer la méchanceté. Si déjà même en étant en communion avec Christ, nous luttons parce qu'il y a cette nature enclin au mal, à combien plus forte raison quand on est sans Christ. Psaume 58 au verset 4, le psalmiste dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les bébés qui sont en train de pleurer là, la méchanceté habite déjà son cœur. Je dis vrai. Pas comme a dit cet homme, l'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais. Faux, l'homme n'est mauvais. J'ai vu un jour un petit garçon, je pense, des 13-14 mois, qui apprenait un peu à marcher, mais pas très bien, qui ne sait pas encore très bien parler. Quelqu'un fait tomber un morceau de biscuit. Il est entré du... Et il est... Qui lui a appris ça? À quelle école? Ça vient de là où les Bakongo disent « Mounantima ». Du cœur. C'est pourquoi la Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Le temps ne fait qu'amplifier ce mal qui existe. Mais il est déjà là. Sans Dieu, le psalmiste dit « On est perverti dès le sein maternel ». Parole de vie dit, les gens sont mauvais dès leur naissance. Banabazaba angelou, yawab. Tob va plus loin, dit, à peine conçu, les méchants sont dévoyés. Dans Romains 7, au verset 14, un homme qui essaye de faire le bien et n'y arrive pas déclare, je suis vendu au péché. J'appartiens au péché. Je suis à la merci du mal. Je suis à la merci des mauvaises choses. Quatrième principe. Troisième verset. Troisième, Caïn est l'ancêtre de tous les méchants. Donc si vous êtes méchant, appelez Caïn grand-père. Caïn est l'ancêtre de tous les méchants et sa façon de se comporter dans Genèse 4, partie 5b jusqu'à 8, nous enseigne plusieurs choses attachées à la méchanceté. J'en ai fait ressortir 5. La première, c'est que la méchanceté tire sa source du cœur. La deuxième, c'est que la méchanceté est d'abord une pensée avant de devenir acte. C'est pourquoi autant que Dieu peut vous permettre, ne laissez jamais les pensées qui viennent à se transformer en actes. Les temps qui se transforment, faites-les avorter. Ne les laissez pas aller jusqu'au bout. La troisième, c'est que la méchanceté nous rend faux. L'avait dit, il invita Abel, sûrement avec un grand sourire. Abel, qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce qu'on peut aller faire un tour? Au fond, il grince les dents. Pourquoi on doit accepter son offrande et pas la mienne? Hein? Faux. Que des gens faux. Que des gens théâtraux. Quatrième chose. La méchanceté est une force qui nous contrôle. Elle veut nous dominer. Quand Dieu voit la méchanceté s'inviter dans les cœurs de Caïn et dit, le péché se couche à ta porte. Une autre version dit même, tapis à ta porte. Mais toi, domine-le. Ça dit, c'est une grande force, mais elle n'est pas invincible. Tu peux refuser. Cinquième chose que Caïn nous apprend. C'est que la méchanceté fait de nous des sources de malheurs, mais nous rend nous-mêmes aussi malheureux. En voulant régler ses problèmes de sa jalousie, de son inconfort attaché à son ego qui se sentit amoindri, il a créé un problème pour lui-même, il est devenu criminel. Il a créé un problème pour ses parents, amputé d'un enfant. La méchanceté n'est jamais et ne sera jamais la solution. Caïn fut très irrité, nous dit Genèse 4, 5, la partie B, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi? Et une autre chose que je voudrais ajouter en appendice, toujours dans ce troisième principe, c'est que la méchanceté impacte négativement quatre entités. Ça impacte Dieu, nous-mêmes, notre prochain et notre entourage. Genèse 4, 13, quand il a tué son frère Abel, écoutez ce qu'il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il est dans les troubles. Genèse 4, 14, quand Dieu les chasse, il dit, voici, tu me chasses de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Il a peur de la mort désormais. Il a pensé résoudre un problème, mais il en crée un autre. Proverbe 13 au verset 6 dit, la méchanceté cause la ruine du pécheur. Regardez les méchants, comment ils se font entourer des gardes du corps. Ils ne peuvent se promener calmement parce qu'ils sont wanted à plusieurs endroits. Mais les gens bons ne craignent personne. La méchanceté touche notre prochain et notre entourage. Job 35 au verset 8, il est dit, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Tes inclinaisons à faire mal, ça va te faire mal, mais ça fera aussi mal tout autour de toi. Psaume 107 au verset 34 parle du pays fertile qui est changé en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. À cause d'un comportement des gens, même l'environnement est pourri. Quatrième principe, la méchanceté n'est jamais cachée. Là où elle est, elle se fait toujours voir, ou elle finit toujours par se faire voir. Si tu as la méchanceté dans un cœur, vis-à-vis de quelqu'un, ça finira par sointer. En parole, en acte, en attitude, ça finira. Elle n'est jamais cachée. Elle se fait toujours voir de trois manières. Premièrement, en attitude. Deuxièmement, en action. Et troisièmement, en parole. Attitude, action et parole. Genèse 37, 4 que nous avons lu, 20, 23, 24, 28, nous montre toute la progression de la méchanceté des frères de Joseph. Ils les prirent en haine, attitude. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph pouvait simplement venir, où est papa? Est-ce que c'est à moi que tu dois poser la question? Il ne pouvait lui parler avec amitié. Pourquoi le pouvoir de la gentillesse est parti? Parce que le cœur est corrompu. C'est pourquoi quand vous vivez avec des gens, regardez-les dans les yeux. Écoutez les tons avec lesquels ils parlent. Des fois, des symptômes sortent clairement. Mais nous ne prenons pas conscience. Français courant dit, ils en vinrent à les détester tellement qu'ils ne pouvaient pas lui parler sans hostilité. Parole de vie dit même, ils étaient incapables de lui parler gentiment. Donc même s'ils essaient, ils n'arrivent pas. Et Luc 6, 45 le confirme lorsque Jésus dit, les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est plein dans le cœur finira par sortir. Alfred Coigné dit, parole vivante, celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, comme un fond de commerce. Car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit les cœurs et qui déborde de son trop-plein. Il est haïsse, attitude, ils ne peuvent lui parler, parole, mais versets 23 et 24 et 25 nous montrent qu'il est dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs des actions. Il est jeté dans une citerne sans eau. On s'imagine comment il est en train de se vautrer dans la boue aux ouïes petits. Et puis il les vendent froidement. Il retourne à la maison, il participe au culte familial du soir. Il chante Adonai, Adonai, Miyibi. Cinquième principe. La méchanceté est une maladie qui se présente sous deux formes chez l'homme. Là, c'est en rapport avec le temps. Chez certains, elle est sporadique, occasionnelle, accidentelle. Chez d'autres, elle est permanente. Certains sont méchants accidentellement, sporadiquement. Nous le verrons sûrement avec les autres séances. Certains sont méchants en réaction. Mais d'autres sont méchants en permanence, en action. Et David, que nous avons lu dans 2 Samuel 11, est le type de méchant accidentel, qui devant un problème sans issue, essaie la méchanceté sans être habitué. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement pour nous dire que nous tous devons faire attention. Nous n'avons aucune idée du potentiel mal qui sommeille en nous et qui des fois n'a besoin que d'une occasion. Jérémie 17 au verset 9, Le prophète dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? J'ai quelquefois découvert sur mon parcours, enfant de Dieu, servant des gens de Dieu, j'ai découvert que j'avais à lutter contre la méchanceté. Et souvent quand je pense à cela, je pense à ces récits, je vous les relatais une fois ici, de ce jeune converti qui, 6 mois après la conversion, il passe par les eaux du baptême, et quand son pasteur le fait sortir des eaux du baptême, il dit, pasteur, le vieil homme, je l'ai vraiment laissé là au fond. Parti, toi vieil homme, reste là. Et maintenant je vis dans la victoire. 1 mois après, les pasteurs le retrouvent. Comment ça va? Il dit, victorieux le vieil homme, toujours là-bas. 6 mois après, un jour, les pasteurs le retrouvent avec un visage long et triste. Il semble qu'il avait mal agi vis-à-vis de quelqu'un. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. J'ai 2 fois découvert, tout en aimant le Seigneur, et même en les servant, que j'avais un potentiel méchanceté. La première fois, c'était en 90. J'étais responsable adjoint de notre jeunesse et durant quasiment 4 ans, nous organisions des activités qu'on appelait Café Chrétien, une sorte de campagne d'évangélisation. Et nous étions toujours en prière demandant à Dieu qui va prêcher et qui va modérer. Et 4 ans durant, chaque fois même quand on priait, c'était le même nom qui était cité pour la prédication et la modération, c'était Roland Dallo. Et la 5e année, quand on s'est mis à prier, j'oublie jamais, on va écouter le Seigneur. Moi je dis, il n'y a pas mal, je sais comment ça va se passer. Et puis Dieu a saisi une sœur, elle a cité le nom du prédicateur, c'était le même prédicateur, je dis, je connais la suite. Et puis subitement j'entends, ainsi par l'Éternel, cette année-ci, il en sera ainsi pour le modérateur. J'ai ouvert l'œil. Ça ne sera pas Roland, j'ai regardé. Et puis on a cité le nom d'un frère. Il dit, qu'est-ce que vous pensez tous? On a dit, alléluia. J'ai dit, alléluia, là dans mon cœur, j'ai dit, est-ce qu'il y a le coca? Est-ce qu'il saura être à la hauteur comme Roland? Mais il y avait un sourire. C'est Dieu qui a décidé. J'ai découvert que je pouvais aussi être méchant. Peut-être pas vous. J'oublie jamais. On s'est retrouvés ce samedi-là, juste avant cette activité. On s'est tenu la main dans la main. Et le pasteur que nous dirigeait dit, prions pour que Dieu mette sa main. Je l'ai dit plus tard à un ami, si nos mains jointes étaient un circuit électrique, à mon niveau, il y avait court-circuit. Parce que quand on priait, moi je me disais, mais est-ce que cette sœur-là, c'est Dieu qui lui a parlé? Et puis le petit-là, est-ce qu'il saurait être à la hauteur? Combien quelquefois nous nous pensons important? J'ai dit, ça n'arrive qu'à moi. Ça ne peut pas arriver à Ken. Ken, on doit dire, sans tout Ken, sans bela po yabiso basumuke. Sika wa po tango yaliwa yabiso. Amen. Ça ne peut pas arriver à Olivier Tshibola, le saint homme. Et j'oublie jamais quand ce frère est monté pour faire la modération. Je n'avais pas un stylo rouge. Mais je ne faisais que corriger tout ce qu'il a introduit. J'ai dit, petit a raté introduction. Si c'était moi, j'allais dire ça. J'ai tout corrigé. J'oublie jamais à la fin, la réunion finie. Les gens viennent me dire, mais Yadalo, à modérer mes années, j'ai dit, non, c'est Dieu qui a voulu, mais dans mon cœur, j'étais bon, mon hein. Une réponse officielle, hein, c'est Dieu. Des choses quand je reviens de ce qui a me dit. Au fond de mon cœur, je dis, bon, Monique, d'allô, ça, d'allô. Hein? Méchant. La deuxième fois que je découvre la méchanceté en moi, c'est à Bukavu, en 2000. Je quitte Nairobi, je suis invité pour prêcher. Je prêche durant 5 jours de lundi. 4 jours de lundi à jeudi, Dieu se manifeste glorieusement. Certains même ont commencé à m'appeler le bishop de Bukavu. Et chaque matin, après lundi, je recevais des gens au bureau, ils venaient par centaines. J'ai quitté toujours le bureau, fatigué. Et le vendredi matin, le pasteur vient m'appeler et dit, il y a un vieux pasteur qui vient d'Ouvira. Si tu peux te reposer aujourd'hui, et lui va prêcher ce soir. J'oublie jamais ce soir-là, cet homme arrive, un bout d'homme. Je me demandais si l'habit avec lequel il prêchait, c'était un habit ou un pyjama. Ça avait l'air sale, comme ça.
Mais cet homme, il n'a pas beaucoup prêché. Il a prêché, je pense, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Mais quelle gloire de Dieu. La gloire de Dieu était manifeste. J'ai vu des goîtres disparaître. La main de Dieu, il prêchait en swahili, mais c'était fort. Et puis à la fin, le pasteur a dit, demain, ce n'est pas seulement le pasteur Dalo qui va recevoir, c'est le pasteur d'Ouvira aussi qui sera là. Il y aura deux endroits. Et le lendemain matin, je viens avec toute l'assurance. Déjà au loin, je me rends compte que devant ma porte, il n'y avait que des mouches et des moustiques. Et les chaises étaient vides. Mais je regarde de l'autre côté, on avait l'impression, ça c'est comme les Quinois disent, Bercy ou quoi. Tout le monde était allé. Comme quelqu'un dirait, Loupembe, changer quand? J'entre dans mon bureau depuis 8h, 8h30, personne ne vient. 9h, personne. 10h, j'ai dit sûrement, il y a des retardataires qui ne savent pas que les référents Roland Dalo est quand même là. Je sors comme si je vais demander à quelqu'un quelque chose, mais c'est une manière de dire, je rentre au bureau, personne. J'oublie jamais vers 12h, le pasteur vient dire à certains, frères, le pasteur qui vient d'Ouvira est fatigué, le pasteur Roland Dalo, s'il peut vous recevoir, il dit non, on va attendre ici. J'oublie jamais vers 13h, le jeune homme qui me ramenait, il me prend dans le véhicule et devait me déposer à l'hôtel. J'ai découvert que je pouvais aussi être méchant. Je me suis mis à détruire un autre homme de Dieu. Il m'a dit, pasteur, tu as vu ce pasteur de Bukavu? Écoutez ma réponse. Attention aux gens qui viennent du village. Je me demande si c'est seulement l'évangile. Qui sait s'il n'a pas des amulettes? Quand je dis ça, mon cœur s'est attristé. Mais j'ai découvert que je pouvais aussi être méchant. Sûrement pas toi. Toi, tu es trop bon. Toi, il te manque l'auréole. Certains sont méchants de manière permanente. D'autres sont méchants de manière sporadique. Je prie que Dieu t'aide, toi et moi, même de manière sporadique, à ne pas être méchant. Genèse 13:13, parlant des gens de Sodome, dit, ils étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel de manière permanente. 1 Samuel 25, verset 3, parlant de cet homme, Nabal, le mari d'Abigaël, dit qu'il était dur et méchant dans ses actions, de manière permanente. Sixième principe, il y a deux types de méchants en rapport avec la prise de conscience. Il y a des méchants qui sont conscients de leur méchanceté et qui pleurent devant Dieu et qui veulent s'en sortir. Mais il y a des méchants inconscients. Ils sont vendus au mal, ils sont mauvais et ils ne le savent pas. Quand vous voulez les reprendre, ils vous trouvent anormal. Ils vous disent, c'est vous qui êtes trop gentil. 1 Samuel 24, 18 à 19. Saül, tout en étant méchant, mais c'était un méchant conscient. Alors que David l'épargne, il lui dit, tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Il les reconnaît. Il dit, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Conscient que lui, il est mauvais, méchant, et l'autre n'est pas. Mais par contre, Jézabel, que nous avons mentionné dans 1 Roi 21, 7 à 16, capable d'actions les plus mauvaises, sans remords, sans prise de conscience, sans regret. C'est un principe. Avant d'être un ensemble d'attitudes, des paroles et d'actions, la méchanceté est d'abord une nature. On est d'abord méchant et puis on produit la méchanceté. C'est d'abord une nature qui finit par se révéler en action. David l'a dit lorsqu'il a dit à Saül, dans 1 Samuel 24, verset 14, il dit, des méchants, vient plutôt la méchanceté. Il dit, des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi.
Saül est étonné, c'est qu'il était à la merci de David. Et David ne l'a pas traité mal. Et David dit, je ne peux pas. Je n'ai pas cette nature. Je ne suis pas programmé ainsi. Lui, il est étonné. Comment quelqu'un peut avoir son ennemi à sa merci et ne pas l'écraser? Il dit, j'ai une nature qui m'empêche d'être ça. Qui m'empêche de faire ça. Dans Matthieu 7, 16 à 18, Jésus dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Il dit, tout arbre est bon, porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portent aussi des mauvais fruits. On n'a pas besoin d'un thermomètre pour savoir que vous êtes méchant. On voit vos actes et nous pouvons savoir. Huitième principe, la méchanceté qui se montre par l'inclinaison à nuire et à faire du mal à autrui, a comme soubassement une autre tare collée à elle. Et cette autre tare est même comme une forme de porteuse d'eau pour la méchanceté. C'est l'égoïsme. La méchanceté tire sa force de l'égoïsme. Il n'y a pas de méchanceté sans égoïsme. Tout méchant est d'abord égoïste. Centré sur lui. Qui ne voit que son bien. Qui ne voit pas la douleur de l'autre. Pour les méchants, la douleur et la souffrance de l'autre n'existent pas. Quand les frères de Joseph lui font mal, il ne pense pas à lui. Il ne pense pas à sa douleur. Quand on lui enlève la tunique de plusieurs couleurs, quand il les vend, froid. Et lisez Genèse 42, verset 21. Des années plus tard, l'un d'entre eux, quand ils sont troublés en Égypte, il répare de cette scène. Écoutez ce qu'il dit. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Cela montre que quand on l'avait jeté dans la citerne, j'imagine Joseph en train de pleurer. Il y a Ruben, sauveur aux huit petits. Rotekama. Il y a Ruben, Rokende, Ndoto, Ndoto. Oui, ma gerbe, oui, t'es l'ami. Oui, ma gerbe, quoi. Mais l'autre, l'autre. Kendo, l'autre en Égypte. Égoïste. L'égoïsme, c'est ce qui anime aussi David quand il écrit une lettre pour que Uri meure. David, tu ne sais pas que celui que tu envoies, il a des projets. Il a des rêves de vie. Il a des choses qu'il aimerait accomplir. David décide, ses rêves doivent s'arrêter. Et c'est moi qui décide. Jézabel, quand tu décides que Naboth doit mourir, est-ce que tu penses à lui? Tu penses à ses rêves? Tu penses à ses projets? Neuvième et avant-dernier principe, sur le plan pratique, la méchanceté peut avoir plusieurs visages et plusieurs degrés. La méchanceté peut se révéler sous forme d'antipathie. La méchanceté peut se révéler sous forme de haine. La méchanceté peut se révéler sous forme de médisance. Dire du mal de quelqu'un, mais quelquefois basé sur des choses vraies, mais avec l'intention de nuire. La méchanceté peut avoir la forme de la calomnie. Dire des faussetés sur quelqu'un. On ne l'aime pas tellement, on veut les détruire. On les salit. On paye des journaux, présentez-les sous telle forme. La méchanceté vole à main armée. La méchanceté, c'est le viol. Et quand je parle du viol, je m'arrête un moment. Ces militaires en détachement dans un coin, peut-être ça fait des années, peut-être ça fait des mois, il n'est pas avec sa femme. C'est vrai, tu as des désirs que tu veux assouvir. Mais est-ce que tu dois les faire au détriment de la destruction de quelqu'un qui n'a pas de sentiments vis-à-vis de toi? Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'après, voilà, qu'il ressente un plaisir, des frissons. Mais qu'est-ce que va devenir l'autre? Ça m'importe. C'est moi. J'ai suivi un documentaire, je pleurais.
dans un coin, 5 militaires ont violé une vieille dame de 75 ans. Je peux comprendre qu'ils sont dans les manques, je peux comprendre, mais jusqu'à détruire une vieille femme. Un oncle qui a 32 ans, 33 ans, qui prend sa nièce de 12 ans, de 15 ans, qui commence à grandir quand il passe, va m'acheter telle chose. Et la pauvre, c'est l'oncle. Violence. Tu l'as détruit toute la vie. C'est sa première expérience sexuelle, elle en est traumatisée. Elle sera frigide toute la vie. Elle voudra... Ça ne compte pas ce qui compte. Simba moi c'est là. J'ai appris dans une famille, des voleurs à main armée sont entrés. Ils ont violé de la mère à la dernière fille. Méchanceté. La méchanceté, c'est aussi l'envie ou la convoitise qui veut que l'autre perde quelque chose que je puisse l'avoir, autre toi que je m'y mette. La méchanceté, c'est voler les fiancés d'autrui. Tu l'appelles ma copa-copa-e. Et derrière le dos, tu passes yo kanisala. Et puis quand tu la retrouves, na beta yo nzambenangaye. Rupture, 6 mois après, on apprend que c'est toi la fiancée officielle. Et on va aller doter chez toi. La méchanceté, c'est tricher avec les maris de sa copine. Il est là et tu triches derrière. La méchanceté, petite sœur, c'est coucher et tricher avec les maris de ta grande sœur. Oh, pasteur, il y a mon tabanda qui est bon, il y a qui est bon. Méchante. Et tu viens à l'église, tu élèves les mains. La méchanceté, c'est sortir avec le mari d'autrui. Tu viens voler la vigueur de cet homme, ses moyens, alors que ce sont des biens exclusifs à sa femme. Et tu viens à Philadelphie.
La femme est à Philadelphie.
La méchanceté, c'est l'escroquerie. Des faux diamants, tu mets des cailloux. La méchanceté, c'est les faux dollars. Tu viens pas être à Philadelphie, mais dans les faux dollars. Et tu viens même donner la dîme, pauvre et nous. La méchanceté, c'est ces documentaires que j'ai suivi qui m'a fait pleurer. Des gens qui fabriquent des faux médicaments. Je comprends que tu aimes l'argent. Je comprends que tu veux avoir l'argent, mais aucun principe pharmaceutique dans ces produits, mais parce que tu veux avoir l'argent. On a attrapé des jeunes gens il y a 6 ans à la commune de Kinshasa qui fabriquaient de l'eau qu'on utilise pour le sérum, voilà. Qu'on utilise pour les perfusions. Ils fabriquent ça derrière la maison. Du robinet. Vous voyez, vous faites parce que vous êtes bon. Méchant. La méchanceté, c'est quand une tribu, une race est en train de piler des enfants de 5 ans, 6 ans, 3 ans parce qu'il n'est pas de la même race que nous. La méchanceté, c'est l'empoisonnement. Mets-le dans la bouffe. On paye un domestique. C'est toi qui prépares pour lui. Mets-lui. Les combles, c'est que la méchanceté a touché même l'évangile. Allez-y, les pasteurs, quand ils se déplacent, 9 fois sur 10, ils amènent leur micro.
Je suis allé à Bouka voir une réunion des pasteurs. On était à 25. On nous a servi à boire. 30 minutes après, il n'y avait que ma bouteille, celle de mon voisin qui était venu de Kinshasa, qui était vidée. Toutes les autres bouteilles intactes. On nous a posé la question. Méchanceté. Certains aujourd'hui dans des coins de notre pays, ils fabriquent des poisons et ils vendent des antidotes. Pour que leur commerce d'antidotes marche, ils doivent vendre sur les poignets. J'étais allé avec Blaise à Goma, il a souffert. Grande quantité de miel. À chaque petit pas. Il avait amené des produits, comment on appelle ça, désinfectants. Je voyais Blaise, il salue quelqu'un, il se retourne. Banga Makambo. La méchanceté, c'est l'assassinat. Éliminez cet homme. Faites-le partir. Dixième principe, et je m'arrête là pour ce jour. La méchanceté ne convient pas aux saints. Si à la limite on peut la trouver dans le monde, elle ne convient pas aux saints. Elle ne peut s'attacher à la vie de ceux qui font profession d'appartenir à Christ. Même à quelques niveaux. Dans Éphésiens 5, verset 1, verset 3 et puis verset 8, l'apôtre dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et puis il ajoute au verset 3, « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de cupidité, j'aime ce qu'il dit, ne soit pas nommée parmi vous. » Et puis il ajoute, « Ainsi qu'il convient aux saints. » Il y a des choses qui conviennent aux saints, il y a des choses qui ne conviennent pas. Les termes « convenir » là, en grec, ça veut dire va en harmonie. Comme la couleur noire va en harmonie avec le blanc. Ne convient pas. Aidez-moi à dire à votre voisin comme prédicateur adjoint ce matin, la méchanceté ne convient pas aux saints. Aidez-moi à lui poser la question, et toi tu es un méchant? Il dit que ces choses ne soient pas nommées, murmurées, qu'on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que ça ne convient pas aux saints. Et j'aime comment il termine au verset 8, il dit, vous appartenez à Dieu, donc chez vous on ne doit pas parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes de choses immorales. Notre Dieu, d'après le psaume 45 au verset 8, il aime la justice, mais il n'aime pas la méchanceté. Alors la question en concluant, peut-on vaincre la méchanceté? J'ai dit oui, mais à quatre conditions. La première, être conscient qu'elle nous habite et qu'elle nous domine. Deuxième condition pour la vaincre, être conscient que nous ne pouvons pas nous en débarrasser nous-mêmes. Troisième condition pour la vaincre, être conscient que Christ a pourvu par l'œuvre de la croix pour que nous soyons victorieux de la méchanceté. Quatrième et dernière condition, crier au secours et appeler à l'aide les seigneurs, comme cette personne de Romains chapitre 7 verset 24 qui dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps et péché. Je voudrais nous inviter juste durant quelques minutes à baisser nos têtes dans la prière.
Je suis tout cher.